pour une nouvelle semaine de rire, d'humour, de bonne humeur. Bref, un vrai concentré de bonheur sur Europe 1. Tout ça grâce à Laurent Ruquier. Bonjour très cher Laurent.
On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Caroline Diamant. Ouais, bravo. Christine Bravo. Ouais. Fabrice Éboué. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Titoff. Et Pierre Bénichou. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je vous sens déjà le désir de prendre la parole. À peine l'émission commence.
Mais pas du tout, vu que
vous êtes content de nous revoir.
Le désir de prendre la parole pour dire à quel point je suis heureux de vous voir, vous revoir et de voir ce public si nouveau, si nombreux, si chaleureux.
Le fait de revoir Christine, peut-être vous étiez parti sur un petit malentendu.
Oh, mais ce n'était qu'un malentendu, vous ouais. dites.
Moi, je m'en rappelle du malentendu.
Ah oui.
Les pop-art. Non, pas le pop-art, les pop-art. Voilà, ah, voilà comment tu as parlé, les pop-art.
Bah, les auditeurs sont d'accord avec Pierre, en tout cas, Yvan qui m'envoie un mail en disant
Je suis d'accord.
Avec...
Tu commences à trier le courrier dès le matin quand t'arrives, t'as une obsession à 6h, c'est trier le courrier avantageux pour Pierre et foutre le mien à la poubelle.
Alors, j'ai un mail avantageux pour Pierre et un mail avantageux pour vous, alors vous feriez mieux de vous taire,
d'accord.
Voyez.
Sinon, il va pas le lire.
Voilà, je suis d'accord avec Pierre Bénichou. Warhol, ce n'est que de la sérigraphie, ce n'est pas de la peinture. Vermeer, ça, c'est de la peinture. Voilà ce que dit.
Ah bah ouais, ça Vermeer, il n'y a pas mieux, puis Rembrandt. Pareil, hein.
Et puis, le mail favorable à Christine Bravo, vous voulez?
Oui.
C'est Antoine qui dit « Christine Bravo est-elle célibataire? Car je la trouve encore désirable. »
C'est ça qui est favorable?
Oui.
Je crois qu'il se rend pas bien compte. C'est pas le même débat.
Christine a raison, je prends ses patins. Parce qu'il y a deux perfidies dans ce que vous dites.
Ouais, hein? Mais t'es vraiment un chien.
Oui, non, je n'irai pas jusque-là. Non, il s'approche de la rage canine, c'est vrai. Non, c'est pas vraiment... Non, parce que alors que moi, on vient flatter mes goûts artistiques, qu'elle, on dit, elle est pas mal et tout ça, et à plus que vous lisiez ce encore,
oui,
elle est encore désirable.
Oui, avec une insistance.
Encore, oui, mais t'es pas obligé de lire tout.
Merci de me répondre, Titine, il vous appelle en plus, Titine, l'auditeur.
D'accord. Quel âge a-t-il?
Antoine, c'est pas écrit quel âge il a. Voilà, 82, je pense. Ah, Ken, lui, a fait quelque chose d'assez amusant. Il est allé voir sur le site YouTube quelles suggestions apparaissaient quand on tapait le prénom d'un chroniqueur pour voir qui était vraiment célèbre dans l'équipe. Et bah, par exemple, quand on tape Fabrice, le premier nom qui ressort, c'est en 1, Fabrice Éboué.
Oh, la classe.
En 2, Fabrice Lucchini. Et en 3, Fabrice Santoro. Vous arrivez devant Lucchini et Santoro.
Bah, évidemment, c'est par alphabétique. Que c'était bête.
Ah, non.
Non, pas si tu tapes sur Google. C'est
la
ça,
preuve
la
que non,
Google.
La preuve que non, parce que par exemple Pierre, quand on tape Pierre, c'est Pierre Bachelet qui arrive en 1.
Oui, c'est avant Bénichou.
Pierre Perret en 2 et Pierre Desproges en 3. Vous voyez que c'est pas par ordre alphabétique.
Moi, j'y suis même pas.
Non. Ça sur YouTube, vous y êtes.
Je vous dirais simplement une chose, c'est que le prénom Pierre est tout de même plus répandu que celui de Fabrice.
Christine, alors, on tape Christine,
ah oui, sur
c'est
Internet,
Christine Bravo qui arrive en tête.
Non, c'est impossible.
Mais puisque je vous
YouTube.
Non, c'est PornTube.
Sur YouTube.
Ah bon, mais sur YouTube, c'est pas pareil. C'est ceux qui disent des conneries, tu vois.
Et vous arrivez devant Christine Aguilera et Christine Lagarde.
À Christine Aguilera?
Ouais.
Christine Aguilera, je sais même pas qu'elle a existé un jour.
Bien sûr.
Christine Aguilera, on dirait un tango. Aguilera. Ouais. Non, mais c'est quoi, Christine Aguilera?
C'est une chanteuse.
Évidemment, je suppose que Titoff arrive premier, puisque c'est le seul à porter un prénom si stupide.
Non, il y a l'acteur de porno, en fait.
Marilyn, voilà un joli prénom. Et Gilles, pourquoi pas? Tiens, bonjour Marilyn, bonjour Gilles.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
On commence par Marilyn qui nous appelle des Vosges. Norrois, exactement, c'est où Norrois?
Tout près de Vittel.
Près de Vittel,
oui.
Très bien. Alors Marilyn, j'ai envie de vous demander, vous savez, moi j'aime bien la recherche des prénoms. Pourquoi vos parents ont choisi de vous appeler Marilyn?
Je sais pas.
Vous savez pas? Il n'y a pas eu la curiosité de demander?
Non, je pense qu'il ne savait pas jusqu'au bout, et puis ça lui est venu un peu comme ça, quoi.
Mais est-ce que vous êtes blonde, avec une forte poitrine?
Oui, je suis blonde, mais forte poitrine, je sais pas, mais...
Vous pouvez juste...
Je sais pas, ça veut dire non.
Dites-nous combien, à peu près?
Ah non, Pierre, tu vas pas remettre ça.
On a beaucoup parlé d'Internet. Hein.
Par rapport à Caroline Diamant, par exemple.
Un peu moins.
Faites quoi dans la vie, Marilyn?
C'est déjà beaucoup.
Bon, 97.
Non, comme métier, je veux dire.
Je suis institutrice à congé parental.
Quelle classe ?
En CE1, CE2.
CE1, CE2. À Noroy, donc.
À Vittel.
À Vittel.
Oui.
Ah, vous faites le trajet tous les jours, Noroy à Vittel.
Oui.
Elle enseigne à Mantes aussi, hein. Non, c'est vrai. Elle fait Noroy, Vittel, Mantes. Elle fait les trois.
Gilles, alors, c'est que des villages ou des villes qu'on ne connaît pas. Gilles, vous habitez Bouissou.
Le Bouissou.
Oh, pardon. Le Bouissou.
Ah, bah, ça, je connais. Ça aussi.
Le Bouissou, dans le Lot.
Dans le Lot.
Ouais, dans le Lot.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, Gilles, dans la vie ?
Et moi, je suis chanteur avec mon frère, mon frère jumeau.
Chanteur avec votre frère jumeau.
Ouais.
Ah, bah, je vais les
le plus drôle, c'est quand même chanteur.
Et Laurent, j'en profite pour vous demander quelque chose.
Oui, hein, allez-y, Gilles.
Sur Europe.
Oui.
On voudrait que vous puissiez nous recevoir de vive voix. Pour qu'on puisse vous présenter notre troisième album. Il sort dans un mois et on aurait besoin
d'un. Mais si on connaît pas les deux autres, c'est mauvais signe quand même.
Vous recevoir de vive voix, je veux bien, mais justement, donnez-nous peut-être un aperçu au téléphone de ce que vous chantez.
Alors, est-ce que vous préférez pas que je vienne avec mon frère jumeau?
Non.
Attendez, envoyez votre photo, peut-être qu'on vous convoquera avec votre frère jumeau.
Et puis une seule photo suffit puisque vous êtes jumeaux.
Non, il y en a toujours un plus beau que l'autre, il paraît.
Ah bon?
Ah bon?
Ouais. Ah, c'est moi.
Chez les Bogdanov, on n'a pas trouvé. Non, mais alors, juste comme ça, qu'on ait un brin de voix, quoi, un échantillon.
Ouais, je vais vous faire une compo, ça s'appelle Duo, et la chante en première, c'est la première chanson de notre concert, parce qu'on a 5 musiciens, et on chante partout en France.
Pierre Bénichou adore votre accent, autant vous le dire tout de suite.
Un accent lotois.
Oui, vous commencez donc, mon vieux.
Alors, vous verrez.
Sans ça, on appelle Christine Aguilera, ça va pas tarder, ça. Hein.
Christina.
Quand on m'a chanté, il va disparaître l'accent.
Ah bon?
Duo. Simple complicité, duo pour l'amitié. C'est vrai qu'on se ressemble, duo, ne jamais s'oublier.
Excuse-moi, Gilles.
Duo éternité, pour toujours être ensemble.
On va déjà remercier votre maman qu'elle n'ait pas eu des quintuplés.
Voilà,
bravo. Excuse-moi, Gilles. T'avais dit que c'était une compo, Gilles, pas une reprise de Serge Liado, hein.
Gilles,
oui.
Vous l'envoyez l'album, on l'écoutera avec attention.
Bon, mais d'accord, ok, super.
Marilyn, vous avez vu, hein, vous avez fort à faire quand même. Hein. Un artiste face à vous, Marilyn.
Ah oui, moi je ne chante pas, je fais que du théâtre.
Oh bah pourtant, vous devez chanter avec les enfants à l'école, non?
Un peu, oui.
Qu'est-ce que vous leur chantez?
Topit, topit, topinette. Il faut garder.
Quelle est la chanson du moment auprès des enfants de CE1, CE2?
L'eau vive, vous faites, non?
Ah, des fois, oui.
Alors, allez, faites-nous l'eau vive.
Vous serez pas plus ridicule que l'autre, hein.
Parce que lui c'est son métier.
Jules, ne les écoutez pas.
Oui, non, mais bon, ça ne touche pas. Ma main est comme l'eau, comme l'eau vive. Mais après, je sais plus trop.
Pour les enfants, Michael Jackson, tu chantes dans un truc comme ça.
Et Bénichou, il peut pas nous en faire une. Il est super fort.
Non, il peut pas.
Bénichou, c'est l'inverse. Il a l'accent quand il chante.
Attention, voici la question. Ils sont 5 Britanniques, 2 Américains, 1 Canadien, donc 8 en tout, à avoir fait quoi ces derniers jours?
C'est du sport, hein.
Voyage galactique, non?
Ils sont les premiers d'une liste qu'on espère à nouveau longue un jour, mais ils sont les tout premiers à avoir fait quoi?
Ils sont quoi? Ils sont 5 quoi?
5 Britanniques, 2 Américains, 1 Canadien. Ils ont fait ça sous surveillance, mais ils l'ont fait
quand même. Ils ont plongé?
Non.
Ils ont fait un test à l'effort?
Non.
Un voyage galactique, les voyages dans l'espace.
Ils sont partis dans l'espace, oui.
Non, pas un voyage galactique dans l'espace.
Ils ont fait un voyage.
Ils ont fait un voyage.
Dangereux.
Okay. Dans le temps.
Dangereux.
Non, c'est le moyen, le mode de transport qui est dangereux, sûrement.
Non, pas le mode de transport. Non.
C'est pas dans le cerveau.
C'est la destination qui est dangereuse.
Un peu, oui.
D'accord, et ben ils sont allés...
Ils sont les premiers.
En vacances
les premiers
à Kaboul.
À Kaboul, non.
En Irak, à Bagdad.
Les premiers touristes en vacances à Bagdad. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors, Marilyn, Gilles.
Je n'avais pas vu l'information.
Les premiers touristes occidentaux qui sont retournés en Irak, c'est une nouvelle forme de tourisme de l'extrême.
Ah oui, t'as raison.
Ça passe.
C'est un tour opérateur qui propose pour quelques milliers de dollars de visiter l'Irak.
Ah, c'est payant.
Avec l'accord, ah oui, c'est payant. Avec l'accord du gouvernement irakien.
Là, c'est l'inverse. Normalement, ils disent ne vous éloignez pas trop du bus. Là, c'est l'inverse. Ne vous approchez pas trop du bus.
Ils ont pu visiter le cœur de l'Irak, de Kerbala à Babylone, en passant par Bagdad, le tout sous la surveillance bah oui, d'une équipe de sécurité.
Ah oui, t'as raison, de voyager. 17 camions militaires autour du bus.
Oui, c'est ça.
5 Britanniques, 2 Américains, 1 Canadien.
Voilà, normalement, c'est... le guide, il a un parapluie, là, c'est une Kalachnikov, t'es qui monte comme ça.
Bah oui, c'était trouvable, hein, quand même. On voit effectivement, on a une photo, en plus, d'une dame avec son foulard en train de prendre.
Là, elle est en train d'appeler au secours, là.
Non, elle est montée sur une sorte de ruine et il y a un soldat derrière. Il y a, faites passer la photo. Il y a un soldat derrière qui la surveille. Non, c'est assez impressionnant quand
c'est
même.
C'est très anxiogène. Comme
mais en même temps, c'est bon
fait de l'adrénaline.
Oui, puis c'est bon pour le pays de savoir que le tourisme.
Ah, oui, bien sûr. Ah bah oui,
c'est vrai.
Revient.
T'as besoin de 3 militaires par touriste, mais.
Marine, organisez un petit voyage scolaire peut-être.
Oui. On va voir ça.
Moi, j'écouterais bien. Je réécouterais bien un petit morceau de duo, moi.
Pour les chroniqueurs, vous pouvez après l'émission visiter notre site lesjumeaux.fr. Voilà.
D'accord.
Lesjumeaux.fr.
Et ben voilà, tout sur nous, bien. Les dates de concert, de tournée, de voilà.
Et comment s'appelle votre album ?
Notre album, ça va s'appeler Naître à nouveau.
Naître à nouveau. Ouais.
Gilles, sans déconner, c'est quoi ton métier ?
Et c'était vous qui avez chanté Je te prendrai nu d'un.
Non. C'est les confrères, les chevaliers du ciel, qui sont voisins de chez nous. Ouais.
Ah vous avez quel âge ?
Et on a 35 ans.
Ah 35 ans, à vous deux ou...
Ouais, non, malheureusement, chacun de nous. Mais bon, vous avez eu le meilleur des jumeaux. Moi, je m'appelle Gilles Jérôme.
Ah, très bien. C'est meilleur. Et l'autre, il a quel âge alors?
L'autre est beaucoup plus vieux.
En tout cas, merci Laurent.
Et
merci.
Puis, je vous en prie, Gilles.
À nous pour notre album.
On va faire que ça. Marilyn, Gilles, on vous embrasse.
Merci.
Allez, on va gêner ce poursuivre sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et son équipe.
Europe 1, on va se gêner. La question, 24 secondes chrono pour répondre.
Sinon, mes chroniqueurs sont des cons.
Didier Ratsiraka va bientôt pouvoir rentrer dans son pays. Pour quelle raison ?
Donc, parce que à Madagascar, le gouvernement, le régime a changé et qu'il va être enfin réhabilité.
Voilà. Et qui est Didier Ratsiraka ?
C'est le frère de celui qui a pris le pouvoir.
C'est un avocat qui avait été premier ministre à une époque.
Ancien président en exil en France, gracié par le nouveau président, mais en tout cas le président de la haute autorité de la transition en moins de 24 secondes. Pierre Bénichou a fait preuve de ses connaissances malgaches. Bravo Pierre, c'était la bonne réponse. Puisque le nouveau président qui a prêté serment samedi a décidé effectivement de libérer tous les prisonniers politiques incarcérés là-bas à Madagascar, mais aussi ceux qui sont en exil. Et il se trouve qu'il y en a un en France. C'est Didier Ratsiraka, ancien président, paraît-il, de Madagascar.
C'est pour ça que Dorasso vient plus, en fait, et il retourne là-bas.
Non, mais en même temps, c'est assez étonnant de voir ce jeune président qui, en plus, n'a pas l'âge normalement requis par la Constitution. Il a 34 ans. Il en fallait 40 normalement pour devenir président. Il a foutu dehors l'ancien président. C'est quand même un putsch, ça s'appelle un putsch, ça, Pierre Bénichou.
Ah, il vous dira le contraire, lui. Il vous dira que ce n'est pas un putsch, mais que c'est la volonté populaire qu'il a, sans faire usage de la force, imposé à ses compatriotes. C'est tout ce que disent les putschistes, en général.
Ouais. Il y avait 40 000 personnes habillées en orange qui, paraît-il, l'écoutaient et l'ovationnaient lors de son premier discours en tant que président de la haute autorité de la transition malgache.
Souvent, les transitions en Afrique, ça dure 15-20 ans. Hein. Faut faire attention, quand même.
Bah oui, mais enfin bon, en même temps...
C'est l'Afrique, maintenant.
Pour moi, c'est rattaché à l'Afrique, même si c'est une île à côté. C'est...
Non, mais Madagascar, ça fait partie de l'océan Indien, de ces îles qui, effectivement, appartiennent tantôt à l'Afrique, tantôt à la France, tantôt... voilà, c'est normal.
Parce que l'Afrique n'appartient pas à la France, peut-être. Non, mais c'est nouveau, ça. Vous parlez de l'AEF ou de l'AEF ?
Ou quatre personnes, c'est une question qui est assez triste, donc attention au dérapage. Voilà. Quatre personnes ont-elles été piétinées à mort ce week-end
sur le parvis de Notre-Dame?
Non, pas du tout.
Elles ont été piétinées par des animaux.
C'est pas l'équivalent de la nouvelle star
à Londres.
Non.
C'est pas le zénith de Martine Aubry, c'était 12.
Ah, s'il y avait eu quelqu'un piétiné au zénith de Martine Aubry, à part Ségolène Royal, ça saurait.
Le mouvement de foule ridicule.
Est-ce que c'est une foule?
Quatre personnes ont été piétinées à mort par d'autres personnes.
C'est en Afrique, il y en a eu que deux qui sont
morts. Ce n'est pas en Afrique.
Des bisous.
l'émission.
Ça n'a rien à voir avec le voyage du pape.
On va trouver le pays. Les États-Unis.
Non plus.
La France.
C'est dans un stade ou pas?
Pas dans un stade.
Devant un stade.
Non plus.
Discothèque?
Devant une discothèque.
Ah, c'est en Russie alors?
Oui.
En Russie, il y a une discothèque qui a été annoncée. Non, ils ont annoncé que l'entrée était gratuite ou un truc comme ça. Du coup, ils sont arrivés à 500, ils ont tué 4 personnes.
Excellente réponse de Jérémy Michalak.
Bon, alors
attendez. Alors, on va faire
j'ai
des
quand même trouvé discothèque.
Mec le lundi. Bon.
Ça se passe à Pervouralsk, je ne sais pas où c'est dans l'Oural.
C'est en Russie.
Pervouralsk,
le spécialiste.
Pervouralsk, 4 personnes ont été piétinées devant une discothèque parce que l'établissement avait annoncé que l'entrée serait gratuite pendant la première demi-heure. Et donc là d'un seul coup, il y a eu un mouvement de foule évidemment pour rentrer dans la boîte de nuit de Pervouralsk.
D'abord, c'est où exactement l'Oural?
C'est en Afrique, c'est rattaché à la Madagascar.
C'est près de Madagascar, exactement. Oh,
non mais c'est vrai qu'on connaît pas bien Pervouralsk, mais
l'Oural on connaît.
On connaît pas bien, on connaît pas du tout.
Mais... Oui, c'est vrai, on connaît pas du tout. Vous avez raison, mais voilà une discothèque en tout cas qui a su faire sa publicité
Et quelle pub?
Oui, avec une demi-heure gratuite un peu. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 personnes piétinées aussi en Afrique pour le pape Benoît XVI.
Par le pape?
Non, pas par le pape quand
pour
même.
Pour le pape. Bon, voilà au moins 2 qui mourront pas du sida.
C'est déjà ça.
On peut voir ça comme ça. Cœur de pirate, c'est une jeune canadienne qui est encore une découverte Europe 1. C'est fou ce qu'on découvre à Europe 1.
Comme un cœur de pirate.
Le cœur de pirate.
Ça, c'est Manouche sans guitare. Comme des enfants, c'est la chanson extraite du premier album de Cœur de pirate. Album qui sortira, mais on saura patienter, le 20 avril prochain.
On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou, Michalak et Titoff.
Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou.
Où a-t-on pu entendre au moins 10 fois de suite olé,
olé? À Toulouse, c'est bon.
Ça va,
le mec qui veut pas jouer.
Le mépris avec lequel tu as répondu au patron.
Toulouse a marqué un but.
Ah non.
Une fois qu'ils ont mené 4-1, ils ont chambré le PSG toute la soirée en faisant olé à chaque fois qu'ils faisaient une passe.
Ah ouais. Voilà, c'était toutes les passes consécutives des footballeurs toulousains sans que le PSG puisse attraper le ballon. On entendait dans le stade olé.
Excuse-moi Laurent.
Olé, bonne réponse de Fabrice Eboué.
Oui. Mais les olé, là, c'est en comptant dimanche dernier aussi ou pas?
Vous voulez dire que le Paris Saint-Germain enchaîne défaite sur défaite?
Non,
c'est
non,
ce que vous entendez, évidemment, dans votre remarque bien marseillaise. Je rappelle que nous serons à Marseille vendredi prochain en direct de 16h à 18h. Mais enfin, on est plus
mais
souvent...
C'est pas maintenant qu'on va dire du mal de l'OM. Hein,
oui, enfin, je vous signale qu'on est à Paris tous les jours en même temps.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est Marseille où on sera vendredi prochain en direct depuis l'Alcazar. L'Alcazar étant une bibliothèque, je le rappelle, et non pas un cabaret.
Ça a été un cabaret formidable.
Oui, mais c'est trop tard.
C'est là qu'est arrivée la fameuse et maintenant Clara Tambour. Et dans du poulailler, quelqu'un criait c'est une pute. Et le type, le présentateur, a dit quoi qu'il en soit, Clara Tambour. Bon, c'était...
À l'époque, ça faisait beaucoup rire. Hein. Qu'est-ce qu'on recherche encore actuellement à Carcassonne alors qu'on en a quand même récupéré 12 sur 15?
Des vieilles bombes?
Comment ça, des vieilles bombes?
Oui, bien sûr, il y en avait 15 qui étaient arrivées à Carcassonne.
Pas, des vieilles bombes, j'en ai 2 ici, moi.
Ça fait bien longtemps qu'elles ont explosé, les deux.
Ils sont pas en retardement.
Vous pétez à la gueule, ça va être vite fait.
Même Al-Qaïda, ils en veulent plus, là, si tu veux.
Les autres dont vous parlez, qu'on a récupéré déjà,
oui.
Et c'était à Carcassonne aussi?
Oui, oui, à Carcassonne.
C'est un truc qui s'est enfui, un truc qui s'est échappé.
Un truc, comment ça?
Un animal?
Oui, un animal.
Des oiseaux, par exemple.
Des singes.
Des kangourous.
Des kangourous, bonne réponse de Titoff.
Les fameux kangourous de Carcassonne.
Ouais, c'est connu. Hein.
Oui, les kangourous de Carcassonne.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice?
Comment t'as deviné que c'était des kangourous?
Parce que quand t'as dit singe, j'ai dit au hasard kangourou. Ouais,
attends, c'est pas juste, l'autre, il a fumé des pets tout le week-end, il a vu des kangourous à Carcassonne.
Rappelons à Christine que la drogue, c'est illégal, hein, bien sûr. Parce que
non, pas... 15 kangourous se sont échappés samedi de leur enclos dans un parc à thème sur l'Australie. Voilà, c'est un parc à thème sur l'Australie qui est à Carcassonne. D'ailleurs, j'ai au téléphone Carole Masson, propriétaire. Non, pas un kangourou. Carole, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez retrouvé les 2 ou 3 kangourous manquants encore?
Alors, il n'en reste plus qu'un. que nous venons de localiser.
Mais non, mais il est dans la poche d'un autre, hein.
Non, malheureusement, c'est un garçon, donc.
Ils n'ont pas de poche, les garçons.
Non, ils n'ont pas de poche, les garçons.
Il y a que les femelles qui ont des poches.
Comme les linceuls, ils n'ont pas de poche. Non, mais c'est pas possible.
Vous êtes complètement débile.
Ah, je l'ai dit comment ça.
Ils n'ont pas de poche, les garçons.
Est-ce que les bah, écoutez, mon slip kangourou, il a une poche, vous voyez, par exemple.
Mais je savais pas, moi, non plus.
Laurent, est-ce qu'il a souvent un poche de joujou, par exemple?
Non, c'est l'inverse.
C'est plutôt l'inverse. Donc, élever le bébé.
À la poche du kangourou sert à élever le bébé, donc.
C'est là où sont les tétines de la femelle, oui.
Donc, il n'y a que la femelle.
Comme quoi, les garçons, ils n'ont pas élevé les bébés. C'est ce que je dis à ma femme sans arrêt. Ça, je comprends pas.
Ben, voyez, on a au moins appris ça, grâce à vous, aujourd'hui. Donc, il reste un kangourou femelle qui court dans Carcassonne.
Non,
Qui n'a pas de poche.
Il reste un kangourou mâle et des gens très mal intentionnés, puisqu'en fait, ces kangourous ne se sont pas échappés.
C'est pas vrai.
Ces kangourous ont été libérés.
Vous savez pas, peut-être qu'il faudrait fouiller les kangourous femelles. Elles ont peut-être des limes cachées dans leur poche ou des choses comme ça.
Qui a voulu libérer les kangourous? Je comprends pas.
On sait pas du tout. En fait, on a eu un ensemble d'effractions, si vous voulez, ce week-end dans le parc. Tous les parcs ont été ouverts, les accès extérieurs.
C'est marrant.
Donc,
c'est
minable. Est-ce qu'on a affaire à un front de libération des kangourous? On sait pas très bien.
Le FLK. Profitez-en pour nous dire quand même ce qu'est ce parc à thème sur l'Australie à Carcassonne.
Bien sûr, donc c'est un parc qui, comme son nom l'indique, est sur le thème de l'Australie. Ça n'est pas qu'un parc animalier. En fait, on fait différentes choses sur le thème des Australies. On mais a toute une partie sur les aborigènes.
Par exemple, il y a des surfeurs qui sont exposés.
Non. Ah. Non, mais on fait du didgeridoo, on fait
les
du
aborigènes. Les aborigènes sont en cage également ou bien
Non, les aborigènes, on fait des démonstrations autour du thème des aborigènes. On fait de la peinture, on fait du didgeridoo. Vous savez ce qu'est le didgeridoo?
Non, allez-y.
C'est une branche d'eucalyptus à la base qui est creusée par les termites et qui est devenue un instrument de musique.
Wow. Très bien.
Wow, mais c'est très joli.
Vous pouvez nous en jouer là maintenant?
Non, j'en ai pas un sous la main et puis j'ai un petit peu autre chose à faire.
Elle a un kangourou à récupérer, il faut comprendre.
Mais pas tous les jours.
Comment vous les avez récupérés les 14 autres alors, puisqu'il y en a eu 15 en tout qui est.
Au filet à papillon.
On les a récupérés avec des filets et des fusils hypodermiques.
Parce que ça se mange le kangourou. Moi j'ai déjà essayé, c'est très bon la viande de kangourou.
Et pas les vôtres.
En l'occurrence, les nôtres, c'est pas du tout le but, puisqu'il y en a certains qu'on élève au biberon, etc. Donc imaginez que paradoxalement. Oui.
Mais est-ce que c'est peut-être que cette histoire, est-ce qu'elle n'est pas liée aussi à l'idée de faire une journée porte ouverte?
En Afrique, on élève les gosses au biberon, on les mange aussi, ça veut rien dire, ça, madame.
En tout cas, c'est un acte de malveillance.
Oui, tout à fait. C'est un vrai acte de malveillance et on espère que ces gens-là vont se calmer parce que c'est rendre service à personne, à moins que ce soit juste pour faire du mal à la structure.
Ce qui m'intéresse, c'est que vous nous dites on les élève au biberon, on les connaît bien, on n'est pas prêt de les manger. Ça veut dire que les 15 kangourous que vous avez ont un petit nom, les 15?
Non, il y en a en partie qui en ont, oui, tout à fait.
Dites-moi, j'adore ça, les petits noms des kangourous.
Ah, on a Joey, Jack,
Avrel,
Jules,
Jade,
Joey, c'est lui qui tape les singes tout le temps?
Pas Joey Star, non.
Il n'y en a même pas un qui s'appelle Skippy?
Non, il n'y en a pas un qui s'appelle Skippy. Non,
Skippy.
C'est comme ça.
Non, ça c'est fou.
J'ai mis très bien Skippy.
Attendez,
Non, je connais la chanson de Skippy. C'est Skippy, Skippy, regardez tous avec nous. Skippy, Skippy, notre ami le kangourou.
Ah ben tu vois, je préfère Topinette. Bah, ouais, s'il fallait choisir.
Est-ce que vous êtes prise dans les quelques mois qui viennent? On a besoin d'animateurs et je crois que là vous avez une prestation.
Bah oui, on vous envoie Christine.
Vous faites bien de la charrier.
Mais Christine,
vous faites bien de la charrier, elle mérite rien d'autre. Renoncez Skippy.
Daniel Gilbert des Eaux.
Et attendez, parce qu'on n'a pas bien écouté, mais Laurent fait bien
comme ça. Si ça n'est pas prêt de ressortir, hein.
On n'a pas bien entendu quand tu as fait le kangourou. Ah oui.
Ça fait ça, un kangourou.
Ça, c'est tout à fait le cri. Petit cri du mâle. Oui, qui cherche
le mâle,
c'est
le mâle en plus qui cherche la femelle, c'est tout moi ça.
Ça peut faire revenir le mâle. Vas-y, plus fort.
Oui, enregistrez-le et diffusez-le sur des haut-parleurs dans toute la ville de Carcassonne.
Allô, ici Carcassonne.
Il est un peu gay ou pas, votre kangourou?
Non, mais oui, ce que j'allais dire.
Pourquoi il y aura un parc à thème sur l'Australie à Carcassonne? Il y a une raison précise?
Et pourquoi pas?
Vous avez raison. Voilà, ça c'est une réponse. Et pourquoi pas?
Écoutez, j'ai eu la BBC de Sydney ce matin qui s'est intéressée à cette histoire, donc vous voyez.
Bah, dites donc, à Sydney, ils ont d'autres chats à fouetter. Vous avez vu que
visiblement non, écoutez.
À l'aéroport, il y a eu deux bandes rivales qui se sont affrontées. affrontés. Il y a même eu un mort au sein de l'aéroport. Donc finalement, il vaut mieux encore parler des kangourous. Vous avez raison. Vive l'Australie à Carcassonne. On vous embrasse. Puis-je vous embrasser, Madame Masson ?
Mais avec plaisir.
Alors je vous embrasse, Carole.
Merci.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui
a dit quoi ?
Quoi ?
Qui a dit « Je me sens trahi, j'attendais une reconnaissance qui n'est pas venue, j'en suis resté déconcerté. »
Est-ce que je me sens trahi, IE ?
I.
I.
Ah.
I.
Déjà. Alors, c'est pas d'or. Monsieur Bouton, le patron de la Société Générale ?
Pour qui Madame Lagarde a dit que...
Il faudrait que la Société Générale s'occupe un peu plus d'intérêt général.
Voilà, c'est pas ça du tout.
Est-ce que... Ça aurait été bien, moi je trouve.
C'est pas Clara Tambour, connard !
Non.
Eh ben...
Non, mais je trouvais que ça mérite...
Je l'avalerai pas, Clara Tambour. Tiens, va à Marseille, ce que tu vas subir.
Ouais, et puis là, on va pouvoir y aller, on s'en direct. Hein. Ah là, il va manger, hein, Laurent.
Ah oui, ah oui, contre lui.
On va tout balancer, ça, tout ce qu'il nous fait.
Je suis bien content de ce que tu me dis, qu'on soit en direct. Mais je savais pas que tu venais.
Bon, dites ma phrase, là. Je me sens trahi, j'attendais une reconnaissance qui n'est pas venue, j'en suis resté déconcerté. Bah,
est-ce que c'est vraiment quelqu'un... Est-ce que c'est un homme politique ?
Non, pas du tout.
C'est du sport, en fait. Je pense que c'est du sport.
Bah, c'est pas du sport non plus,
d'abord, est-ce que c'est en France ?
Ou ce n'est pas en France, mais ça concerne la France.
Mais c'est un Français qui a dit ça, c'est pas une phrase traduite.
Ça n'est pas tout à fait un Français.
C'est un Suisse du pape ?
Non, c'est quelqu'un dont on a parlé la semaine dernière pour le même sujet d'ailleurs, sauf que cette phrase-là est une phrase qu'on vient seulement d'apprendre, qu'il a déclarée à propos...
C'est le pape ?
Non, c'est pas le pape. Non.
C'est à propos des impôts ?
Non, pas
mais
du tout.
Il est connu ?
Connu de par sa situation, de par son état civil.
Il est marié à une gonzesse connue.
Voilà.
D'accord. Alors par son état civil.
Eh ben c'est le mec de Bettencourt,
de Ségolène Royal.
Le mari de Bettencourt, mais j'ai oublié.
Qui demande le divorce. Ouais. Bonne réponse de Christine Bravo.
Incroyable cette histoire.
C'est incroyable. Juan Lecomte, le mari d'Ingrid Bettencourt, qui a déclaré exactement, j'ai coupé une partie de la phrase parce que autrement ça aurait été trop facile, il a déclaré exactement, je me sens trahi, j'ai lutté pour sa liberté et j'attendais une reconnaissance qui n'est pas venue, j'en suis resté déconcerté. Décidément, tout le monde se met contre elle.
C'est con de se séparer après 6 ans de séparation, si tu veux, c'est un peu stupide, quoi.
Oui, en même temps, mais il veut divorcer, elle veut divorcer.
Il dit qu'elle l'a trompé dans la jungle.
Ah bon, il dit ça?
Bah pendant 6 ans.
Enfin, t'es au courant ou pas?
Non,
elle
dit.
Elle vient d'accoucher d'un petit truc avec des poils, comme ça, apparemment, dans la jungle.
Non,
on pense que c'est un
phare. Non, mais sérieusement. Il dit qu'elle l'a trompé.
Oui, avec un des otages, un homme politique, et la femme de cet otage ne le dénie pas. Et effectivement, lui dit à sa femme, effectivement, on s'est rapproché parce qu'on a partagé une énorme souffrance.
Ah bon ?
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu mettais des spots avec elle, complètement dépressive et tout. Et en fait, radada tous les jours. Eh ben moi, je veux bien être otage.
Oh non, vous pouvez pas dire des choses comme ça.
Quand il en parle en plus et tout, c'est oh là là, bah ouais, je vais pas bien en ce moment, ma femme a trompé dans la jungle.
Ça vous fait rire, ça vous.
Bah, pète un peu un plomb quand t'as eu de la cocaïne pure pendant 6 ans de qualité et que t'en viens comme ça sur le continent, c'est pas intéressant.
Non mais, putain, pourquoi on l'a plaint cette gonzesse avec des mecs et de la cocaïne toute la journée?
Non, non. Elle avait pas de salle de bain là-bas.
Non mais ce qui est bien, c'est le revirement quand même. Tout le monde était derrière elle à fond, tout le monde plaignait.
Ah, moi j'ai pleuré de joie quand elle a été libérée. Et dès que je l'ai vue à la télévision, j'ai dit non madame, c'est pas comme ça qu'on arrive de 6 ans de captivité.
Mais bien sûr, en pleine forme.
Non madame, moi j'ai dit ça
tout
de suite.
Attends, elle laissait son petit. Elle avait une meilleure tête que toi ce matin.
Mais c'est ça.
Elle... C'est vrai.
Elle arrive en pleine forme.
Elle n'avait pas de racines. Là, tu dis ça parce que j'ai maigri plus vite que toi.
Même pas une barbe de 3 jours, rien du tout. Si on a meuf, elle arrive.
On n'y croit pas. Non.
Fringante. Attends.
Attention, une question pour Pierre Bénichoux. Peut-être ce sera le seul à pouvoir y répondre puisque.
Ah, c'est mauvais signe, ça. Oui.
Ah, sinon, je vous jure, Pierre, c'est Libération qui nous annonce une disparition, la disparition de quelqu'un qui fut grand prix du disque en 1948 puis en 1955.
Jacqueline François, évidemment.
Jacqueline François, bonne réponse de Pierre Bénichoux.
C'était ça ou Clara Tambour.
Ouais, alors là, bien sûr.
Alors là,
Jacqueline François, j'aime bien le évidemment.
Évidemment,
créatrice de Mademoiselle de Paris et surtout d'une chanson qui a fait florès à l'époque qui était fatiguée, désabusée, sans courage. Non, 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 je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps.
T'as une maîtrise du vibrato, c'est.
Jacqueline Guimoto de son vrai nom. Elle est décédée le 7 mars dernier à 87 ans. On l'apprend seulement maintenant. Oui. Vous le saviez, vous, alors?
Oui, on le sait depuis une dizaine de jours.
Ah bon? Bah, pourquoi Libé en parle seulement maintenant?
Parce que Le Monde en a parlé il y a trois jours et c'était il y a cinq,
six. Il paraît que c'est la première chanteuse française à avoir vendu plus d'un million de disques. Ouais, ouais. Il n'y avait pas eu de chanteuse française avant elle à avoir vendu un million de disques.
Piaf avait une haine pour elle terrible parce que c'était la seule qui vendait, qui était plus connue qu'elle. Ah. Et elle, juste à la Libération, elle a fait un truc formidable. Mademoiselle de Paris, Mademoiselle Hortensia, elle a fait plein de trucs. Super. Et surtout, elle a chanté en Amérique en premier. Ouais.
Ils veulent faire un film aussi sur sa vie, mais le problème, c'est que personne ne sait qui c'est.
Le biopic sur Jacqueline
François. Non. Les connards de moins de 20 ans ne savent pas qui c'est, évidemment, parce que tu trouves savoir que c'est Jimi Hendrix.
Christina Aguilera.
Ça n'a rien à voir. Jimi Hendrix, ça fait 30 ans aussi.
Comment tu comptes, Pierre, ouais, la comparaison avec Jacqueline François. Christina Aguilera, mais ouais. Jimi Hendrix, Pierre, ça fait déjà 40 ans.
Ou 50 cents, tu vois.
Oh, le popard. Jimi Hendrix.
Oh, la comparaison Jacqueline François de Jimi Hendrix.
C'est contre les jeunes, hein, putain.
J'ai le disque là dans les mains de le best-of de Jacqueline François. Qu'est-ce que vous voulez écouter, Pierre?
La preuve, ils ont mis un petit.
Non, moi je voudrais écouter Mademoiselle de Paris.
Mademoiselle de Paris.
Oui. Et après on écoute un truc qui vient de sortir. Après on écoute Jimi Hendrix.
Pour Pierre Bénichou et pour tous ceux qui aimaient Jacqueline François, Mademoiselle de Paris.
Hey Pedro.
On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite main.
Non, franchement, on va peut-être passer quelque chose de plus populaire. Je sais pas moi, pourquoi pas Girl of Ipanema. Bon alors on reprend, 1, 2, 3. Pierre, vous voulez écouter quoi?
La fille d'Ipanema. Non, parce que Mademoiselle de Paris, bon, il y a des mecs qui voulaient ça. Ah non. J'aurais dit, c'est ringard, ça, non. Tandis que la fille d'Ipanema.
Allez, la fille d'Ipanema sur Europe 1. Qu'est-ce qui s'est passé pour la 8e fois vendredi en France?
C'est la 8e année consécutive qu'il y a un truc qui a lieu?
Ah non, pas année consécutive.
C'est dans la même année que ça s'est produit pour la 8e?
C'est pas dans la même année. La 8e fois depuis février 2006, si
au
vous voulez.
Au Winter, s'est fait refaire le visage?
Non.
C'est arrivé à Paris?
C'est arrivé en France, en tout cas. Mais pas à Paris spécifiquement.
Ça concerne le sport?
Ah, il y a le loto le février, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné
le loto? Qu'est-ce qui est arrivé?
La 8e fois.
Ça concerne le climat?
Le vendredi est tombé un 13.
Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour la 8e fois vendredi, la 8e fois depuis février 2006?
T'es sportif?
Non.
Le printemps est arrivé.
Ça fait déjà 8 fois depuis février 2006.
Prendre un accent à la con.
On sent que le printemps est arrivé chez Caroline. Oui. Hein, je sais pas, ça bourgeonne. Hein.
Il est arrivé 8 fois en 3 ans.
C'était du jamais vu.
C'est lié aux socialistes?
Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour la 8e fois depuis février 2006, vendredi? Et on en a parlé tout le week-end.
C'est une manif.
Et on en parle encore aujourd'hui.
Alors, est-ce que c'était des vendredis?
Pas le site d'action.
C'est un rapport avec le site d'action?
Du tout. Pierre, je me tourne vers vous, vous qui au moins suivez l'actualité.
Le printemps du cinéma?
Vous qui êtes journaliste, non. Elle est con, hein. Vous allez m'essayer tous les printemps, le gâteau de printemps, les trois jours du printemps, le printemps des Galeries Lafayette, le printemps Haussmann.
Le rouleau de printemps?
Je suis fatigué, excusez-moi.
Non, écoutez, en plus, c'est sérieux, en plus.
C'est grave.
Oui, quand même.
L'alerte enlèvement,
ah ouais. Bonne réponse de
Caroline.
Vous voyez,
je suis à la fois con et intelligente à la fois.
C'est l'alerte enlèvement.
8 fois, j'ai entendu à la télévision, il disait 3e fois.
Pour la 8e fois depuis février 2006. L'alerte enlèvement,
cet enlèvement n'intéresse personne. C'est la chose, moi, en général, c'est une chose qui me... qui me fait mal, me scandalise. Comme ça, j'écoute l'information tout le temps, parce que quand on voit deux types qui enlèvent une petite fille ou une fille qui disparaît, on se dit qu'est-ce qu'elle va subir et tout. Là, elle, au lieu d'être avec son papa, elle est avec sa maman.
Il y a deux choses à dire très sérieuses à ce propos.
Oui, non, mais c'est vrai.
La première, c'est qu'il y a eu un enlèvement avec violence, je tiens à le signaler, avec violence, et qu'on a connu des papas qui se suicidaient avec leur enfant et des mamans qui se suicidaient avec leur enfant. À partir du moment où un enfant est enlevé avec violence, on peut craindre pour sa vie. Voilà.
D'où l'alerte enlèvement.
Voilà.
Parce qu'effectivement, autrement, elle ne se justifierait pas.
Mais non, parce qu'elle est enlevée, puisqu'elle est à la garde de son père et que la mère l'enlève, et qu'il n'est pas, avéré que c'est la mère.
Elle est à la garde de son père selon le droit français, et elle est à la garde de sa mère selon le droit russe.
Il n'est pas avéré que c'est la mère. Cela dit,
faut vous méfier, Titi, hein.
Faut pas généraliser, mais ça peut arriver avec n'importe quel.
On a reçu la photo sur le portable et tout.
Ah bon?
Je l'ai mis en fond d'écran, là.
Non, je veux pas du tout dire que qu'on peut rire avec ce genre d'histoire. Au contraire, moi, ce sont des choses qui me bouleversent. Cela dit, je me demandais pourquoi cette fois j'étais moins angoissé que d'habitude pour une histoire qui me concerne pas, mais qui est, et ben, je me dis, c'est parce que...
Vous avez vu la tranche du père, il en a quand même,
il y a deux poids, deux mesures, parce que pour le kangourou, ils ont rien déclenché du tout, je veux dire.
De toute façon,
il est même pas majeur, ce kangourou.
De toute façon, un pays.
L'alerte kangourou enlèvement.
Enlever les enfants encore, on peut punir et tout, mais avoir des enfants, ça devrait être permis qu'à une minorité, quoi. Parce que vraiment, il y a tellement d'enfants qui se les enlèvent, ils se les gardent, ils savent plus combien ils en ont et tout ça. Il y en a marre avec les gosses.
Ou alors mettre un permis à points, tu sais, où tu baisses de points à chaque fois que tu fais une connerie avec les gosses, quoi.
En tout cas, le plan alerte enlèvement a été déclenché après la disparition d'Élise, et on en a parlé tout le week-end. Les 7 premières alertes ont permis, en tout cas, de retrouver les enfants à chaque fois sains et saufs, il faut le signaler. Et le dispositif doit réunir 4 critères pour être enclenché. Ça, c'est bon quand même de le rappeler. L'alerte enlèvement, n'est pas déclenchée systématiquement. Il faut que la victime soit mineure. Ça, on s'en doutait un peu. Il faut qu'il s'agisse d'un enlèvement avéré, c'est-à-dire qu'il est avéré qu'il s'agit d'un enlèvement en cas de fugue, par exemple, l'alerte enlèvement n'est pas déclenchée. La vie de l'enfant doit être directement mise en danger. Et effectivement, Christine, vous avez eu raison. C'est parce qu'il y avait violence sur le père que on pouvait imaginer que la vie de l'enfant soit en danger. Et enfin, quatrième critère.
Avoir une photo de l'enfant.
On a toujours une photo de son enfant.
Bon, dis ça comme ça, quoi.
Les enquêteurs doivent disposer d'éléments qui permettent de localiser la victime son ravisseur.
Mais c'est le principe de l'alerte, c'est justement d'aider à localiser.
C'est ça que je comprends pas, oui.
Mais non, mais localiser, c'est parce que peut-être il faut savoir où s'est produit l'enlèvement.
Oui, peut-être c'est ça.
Voilà, c'est ça, oui.
Les enquêteurs doivent disposer d'éléments qui permettent de localiser la victime ou son ravisseur.
C'est con.
Je comprends pas bien ce critère.
Parce que quand on t'a enlevé ton enfant, tu sais pas que le nom de ton enfant et sa gueule, tu sais d'où il est parti.
En tout cas, certes, là, il s'agit d'un enlèvement un peu différent des précédents, puisque c'est un conflit entre le père et la mère. Ça vous énerve à chaque fois, hein, ce genre de conflit, vous, Christine?
Non, ce qui m'énerve, c'est la décision de justice qui a été rendue contre Fortin.
On a
très peu entendu.
Mais tu sortais avec ce Fortin, parce que depuis tout à l'heure, quand
Fortin,
même.
Fortin, c'est l'auteur des pieds nickelés, n'oubliez pas, oui, alors.
On a très peu parlé de cette affaire, et on a dit que les enfants étaient très équilibrés. Or, ça n'est absolument pas vrai. Apparemment, on se rend compte que les enfants savent pas si bien lire que ça. À 18 ans, il y en a un qui a beaucoup de mal à lire, l'autre écrit avec une écriture bâton. Et
il écrit avec un bâton. Ça, c'est en forêt, t'as pas de stylo. Hein, donc, bon.
De toute façon,
c'est pas une écriture bâton.
Ben, j'écris les lettres.
Tu sais pas les lier.
Ah, comme les Asiatiques, quoi.
Mais... Et voilà. Non,
comme les skieurs, quoi.
Il n'y a pas un sujet qui a grâce à vos yeux. Hein. Bon, je vais essayer d'en trouver d'autres. Pour la deuxième partie, ce sera après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Pierre Bénichoux, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Et deux auditeurs qui patientent au téléphone. Bonjour, Hélène.
Bonjour, Laurent.
Hélène qui nous appelle depuis le Vésinet dans les Yvelines, pas très loin donc.
Pas très loin de Paris, pas très loin de vous.
Vous habitez près de chez Maggie.
Oui, exactement. Sauf que le Vésinet de Maggie, je crois que c'était avec un Z.
Maggie, la série ?
Maggie, elle habitait bien le Vésinet. C'était la.
Absolument.
Comment c'était déjà le générique ?
Maggie le jour.
Maggie, voilà Maggie. C'est quelque chose comme ça, il me semble.
Quelque chose comme ça. On sent que vous avez été voisine, en tout cas. Hein. Comment on appelle d'ailleurs les habitants du Vésinet ?
Les Vésigondins.
Vous êtes une Vésigondine.
Exactement.
Il vaut mieux que d'habiter Gourgues.
Hélène, vous affronterez Étienne, qui lui nous appelle depuis Bienne, en Suisse.
Ah bien, oui, bonsoir de Bienne, qu'il m'en sous Bienne. Ah non, pardon, je confonds avec Bienne en Autriche.
Non, c'est Bienne avec B.
Avec un B, c'est pas Vienne. C'est...
Ça fait rien, en espagnol, on dit B pour B.
Ah oh, oui, c'est vrai, mon père, il disait toujours Baison la Romaine au lieu de Baison la Romaine.
Pourquoi votre maman habitait Rome ?
Non. Quand tu étais en voyage en Italie.
Tu parles pas de ma mère.
Non.
Tu dis des erreurs.
T'as entendu parler de Zidane, le coup de boule qu'il a fait ? On fait gaffe.
Non, mais un jour, il avait un ouvrier, le pauvre, il était veuf, et sur la feuille, il avait mis boeuf.
C'est vrai ?
Oui, papa, je t'aime, papa.
Étienne, pardon pour ces détails, évidemment, intimes, des chroniqueurs qui n'ont rien à voir avec votre vie à Bienne. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Suisse ?
Donc moi, je suis chanteur.
Est-ce que vous avez un jumeau ? Est-ce que vous avez un jumeau ?
Oh là là, c'est le téléthon de la chanson.
On prend que les chanteurs avec jumeaux aujourd'hui.
Il n'y a que les chanteurs.
Pardon Étienne, on rigole parce qu'il se trouve qu'à 16h pour le premier challenge, j'en avais déjà un chanteur qui nous a d'ailleurs fait une petite démonstration. Alors évidemment, vous êtes obligé vous aussi de vous y coller au téléphone. Quel genre vous chantez ?
Moi plutôt opéra.
Opéra.
Oh là là.
Vous connaissez pas une chanson de Jacqueline François ?
Le grand opéra de Bienne, bien sûr. Allons-y, c'est parti Étienne.
Il est tout petit l'opéra de Bienne, mais...
Alors allons-y.
De Bienne à la finestra au mio tesoro.
Ouais, moi, ça, c'était le titre, ok.
T'as bossé tout le week-end pour deux mots, tu te fous de notre gueule.
Ah non, parce que c'était pas mal, on était prêts à en écouter plus, vous voyez.
Ah bon?
T'aurais pu faire, Étienne. Oh, Étienne est bien.
Oui, j'ai beaucoup eu droit à cette chanson-là, quand j'étais.
Donc vous êtes chanteur à l'opéra?
Oui, et prof de chant aussi. J'ai monté une petite école de chant.
Et prof de chant. Et vous, Hélène, on vous a pas demandé ce que vous faisiez au Vésinet?
Alors moi, je cherche un emploi.
Vous cherchez un emploi dans quel domaine?
Le marketing.
Le marketing.
Tu as quel âge, Hélène ? Tu as quel âge ?
J'ai 29 ans.
Hélène contre Étienne, voici la question qui vous concerne. La famille Queveau est très présente dans la presse aujourd'hui et la famille Queveau habite Cerizay. Pourquoi est-elle présente dans la presse aujourd'hui ?
C'est lié à un programme télé ?
Non. Pourquoi parle-t-on dans les journaux de la famille Queveau de Cerizay ?
Bon, ils ont fait quelque chose ?
Oh bah oui.
De mal ?
Ah non.
C'est encore un rapport avec Alain Juppé ?
Non, aucun rapport. Pourquoi Alain Juppé à cause des cerises ? C'est trouvable, hein, il sèche, vous entendez Hélène, Étienne ?
Oui, je sais.
C'est à cause de leur nom ?
Ils ont gagné un concours ?
Pas du tout.
Attention, Hélène, Étienne, il faut répondre en chanson. Hein.
Non.
Est-ce qu'ils ont gagné quelque chose ?
Non, rien gagné. Qu'est-ce que vous dites, Étienne ?
C'est lié au sport ?
C'est pas lié au sport du tout.
À la politique ?
À la politique, indirectement, oui.
Ah, c'était la seule famille présente au Zénith ?
Non. Pour quelle raison parle-t-on de la famille Queveau de Cerizay dans toute la presse aujourd'hui et ce week-end d'ailleurs ?
Ils ont intenté un procès
du
à quelqu'un.
C'est bien ou c'est pas bien ? C'est bien qu'on en parle ou
c'est
qu'il
bien,
leur est arrivé ?
C'est bien qu'on en parle, oui.
C'est bien pour gagner quelque chose ?
Du tout, non.
C'est un rapport avec le site d'action ?
Non plus.
De la Cerizay ?
Cerizay, c'est le nom de la ville, oui.
C'est important, ça, la
ville. C'est un fait divers, dans le fait divers.
C'est pas du tout le fait divers.
C'est un rapport avec la crise ?
Ça a un rapport avec la crise.
Ah, c'est encore un restaurant ou un truc, ils ont fait moins cher que d'habitude.
Non. Franchement, là, vous pourriez trouver, vous n'avez pas Internet, je sais pas.
Ah oui!
Et non!
Moi,
je suis
pas Internet, non.
Oh là là.
C'est intéressant.
Ils ont un restaurant, un truc comme ça?
Non, du tout.
Ils sont commerçants.
Est-ce qu'ils se sont fait expulser?
Non.
Ils ont expulsé.
Alors, je vais vous aider. Hein. Ils sont propriétaires, la famille Queveau de Cerizay.
Ah, moi, je sais.
Allez-y.
Ils avaient aménagé leur maison pour un enfant handicapé.
Pas du tout. Non.
Et là, il y a eu un procès dernièrement.
Est-ce que c'est un rapport avec leur nom qu'ils
non,
ont
non, 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 non. Ils sont propriétaires de quelque chose.
Ils sont propriétaires qui restent chez eux.
Ils ont profité de quelque chose pour faire refaire leur maison à deux niveaux.
Non. Ils sont pas propres. C'est pas de propriétaire.
C'est un magasin.
Pas d'un magasin non plus.
D'un terrain. Ils sont propriétaires d'un terrain.
Non.
D'un titre de quelque chose.
Ah, ce sont les propriétaires du zoo de kangourou de l'Australie.
Ils sont propriétaires d'une marque.
Oui, si vous me donnez le nom de la marque, si vous me donnez.
Ah, c'est ça.
Le nom de l'entreprise, je vous aide là.
Okay, Eulier.
L'entreprise Eulier. Bonne réponse de Pierre Bénichoux.
Ce sont des équipementiers
automobiles.
Des équipementiers automobiles qui sont les plus grands employeurs de la ville. Et qui menace de fermer.
Et pour laquelle entreprise, Madame Lagarde devrait rencontrer Madame Ségolène Royal et toutes les deux tenter de sauver cette entreprise familiale.
Cerisay est dans la région que préside Ségolène Royal.
Exactement. Cerisay, c'est dans le Poitou-Charentes. Ah. Et effectivement, la famille Quevreau est propriétaire de cette entreprise du secteur automobile spécialisée dans les véhicules électriques et les toits rétractables, les décapotables en quelque sorte. C'était trouvable, hein, franchement.
Ah oui, mais Pierre est trop fort.
Vous en avez entendu parler de cette affaire ce week-end quand même.
Bien sûr, mais j'avais pas retenu le nom de la famille ni Cerisay.
La famille, non, mais Cerisay, en revanche, ça a été pas mal dit quand même.
Bon, je réviserai mieux la prochaine fois.
On a économisé aujourd'hui 2 filets garnis.
C'était dommage.
Oh, c'est dommage.
Ah, là, là, là. Mais, peut-être vous aurez une nouvelle chance en vous inscrivant à nouveau sur ruquier@europe1.fr. Est-ce qu'on pourrait se quitter en chanson, Étienne, peut-être?
Qu'est-ce que vous voudriez?
J'aimerais chanter en opéra comme un Manouche sans guitare, mais version opéra ou pas?
Comme un Manouche sans guitare.
Parce que c'est drôle.
On vous remercie, on vous applaudit tous les deux.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Boubounet et Boué, Jérémy Michelac, Titoff et bien sûr Laurent Ruquier.
Europe 1, on va se gêner.
Je vous demande de vous arrêter. Laurent Ruquier va poser une question.
Et je vous emmène à Knokke-le-Zoute, où il y avait un concours un peu particulier ce week-end. À Knokke-le-Zoute, c'est Mathilde, infirmière, et sa fille Aline qui ont décidé d'organiser ce concours étonnant. Quel genre de concours?
Alors à Knokke.
Alors à Knokke, c'était pas un concours
de frites, de moules?
Non.
De moustaches?
Non.
Non, tu y étais pas.
Un concours de moules, oui.
C'est pas un concours de fleurs mouillé. En papier crépon?
Non.
De t-shirts mouillés?
C'était qu'une partie du concours. Hein. La finale aura lieu bien plus tard.
Ah, d'accord.
C'est une sélection, là.
Première étape, une sélection, en quelque
c'est
sorte.
C'est des êtres humains?
Sont des êtres humains.
C'est typiquement belge. Le plus beau.
C'est une partie
belge.
Du corps.
Un lancer de belge. Non.
Ça fait une page entière, hein, regardez, je l'ai là, une page entière dans Libération aujourd'hui.
Oh, ah, dans Libé. Donc alors, c'est quand même que c'est un truc. Alors attends, c'est quoi?
Un lancer de communiste.
C'est politique. C'est politique, c'est un congrès pour savoir s'ils veulent être rattachés à la France.
Je vais vous aider, c'est un concours Miss quelque chose.
Ah bah oui, mais c'est ce
que Miss SDF.
Miss SDF, bonne réponse de Pierre Bénichoux. Ça crée évidemment la
c'est très controversé,
polémique.
Alors, attends, c'est quoi? C'est la plus craspecte qui gagne?
Non, c'est pas voir dedans, c'est le cas pas.
Les bah, attends, il y a des SDF qui sont plus propres que toi et qui montrent pas leurs nichons dans le couloir.
Ou alors elles font payer.
Je trouve que c'est de très mauvais goût.
Bah non, oui, pourquoi? Toi t'es une SSTF, toi.
Je trouve c'est de très mauvais goût.
Mais ça dépend, qu'est-ce qu'elle gagne, une maison?
Eh ben, non, mais, alors, oui, justement, vous croyez pas si bien
ben
dire, elle gagne un an de loyer.
C'est dégueulasse.
Alors, effectivement, c'est quand même.
C'est une prime à quoi, alors? C'est celle qui est moche, elle a pas.
Mais non, c'est l'inverse, c'est la plus jolie.
C'est parce que, c'est un concours. Eh ben oui, donc c'est la plus jolie. Donc la plus belle a un an de loyer, les moches, elles restent dans la rue.
Et alors?
Vous trouvez ça normal?
Mais toi, tu trouves ça normal que les.
Non, le seul argument, c'est qu'il y en a quand même une de sauver.
Ben oui.
D'abord, de la misère.
C'est n'importe quoi.
Et le deuxième argument, le vrai argument, c'est que ça met l'actualité, ça met les projecteurs de l'actualité sur ce problème des SDF.
Et quand
cela dit, globalement, je suis contre.
C'est sur le physique que c'est discutable. C'est-à-dire, quelqu'un de plus beau que quelqu'un d'autre dans la débine, je vois pas pourquoi il profiterait davantage.
Elles sont contentes, les candidates. Elles disent d'abord qu'on les encadre, on s'occupe d'elles depuis qu'elles ont été sélectionnées pour le concours. Elles sont d'ailleurs effectivement.
Et après, on les fout dans la rue.
Logées. On a trouvé une chambre individuelle dans un foyer pour chacune. On tente de leur trouver un emploi stable. Je me fais l'avocat, là, pour le coup, des organisatrices du concours. Alors, par exemple, parmi les candidates, Isabella, qui a 43 ans, qui s'est métamorphosée depuis qu'on l'a sortie de la rue. Voilà, elle est maintenant permanentée.
Bien sûr.
Chantal, 45 ans, qui a été frappée, qui est enceinte.
Mais pourquoi ils m'ont pas demandé de venir, moi? J'ai une chance, disons.
Mathilde, qu'on a trouvée dans une gare. Fabiola, dite Calimero, cirrhose du foie et hanche en plastique. Frida.
Est-ce qu'au départ, il y a des régions, quoi, Mille Champagne, SDF ou
Non. Et c'est assez terrible, quand même, hein, de alors, En plus, on les a fait défiler effectivement sur un podium où il fallait qu'elles fassent un petit speech. La plupart se sont mises à pleurer en faisant leur speech. Certaines ont supplié qu'on leur rende leurs enfants, d'autres... alors c'est vrai que tout ça est assez assez difficile à accepter. En même temps, on se dit, bon, alors c'est sûrement pour qu'on parle des SDF, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que ce genre de concours? C'est évidemment toute la question que pose Libération ce matin, qui consacre une page entière à ce concours Miss SDF Belgique. Pour ou contre?
Contre. Mais il faut se dire une chose, c'est que dès qu'on fait un concours comme ça et qu'on est médiatisé, eh bien on n'est plus un SDF comme un autre. Et on a une chance, d'abord on connaît des gens, on est reçu, sa photo passe à la télévision, et quand on est comme ça, on est plus dans le désarroi total.
Et puis un SDF a plus de chances d'être reconnu dans la rue, forcément. Quoi.
Ouais. Ah oui, j'avais pas pensé à ce détail. Qui est né en 1948 en Jamaïque et a montré ses fesses ce week-end?
En 1800?
1948.
Ouais, sinon, ça aurait été vraiment des vieilles fesses. Hein.
En Jamaïque.
Qui est né?
Mais dis donc, 48, ça fait des vieilles fesses.
Mais non, mais 1848, disait Fabien.
Qui est né en Jamaïque en 1948 et a superbement montré ses fesses ce week-end?
C'est un être humain?
Oui, oui.
Et c'est un chanteur de reggae?
Chanteur, c'est quelqu'un qui chante.
Il chante en France actuellement?
Oui, actuellement. Quelqu'un qui chante en France actuellement.
Est-ce qu'il est au téléphone?
Bernard Lavillier? Non. Il est noir?
Non, mais il y a déjà quelque chose qui va pas dans vos questions auxquelles je peux évidemment pas répondre.
C'est une femme, évidemment.
Voilà, merci.
Ah. Okay. Grace Jones.
C'est Grace Jones. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est Grace Jones qui a montré ses fesses, non pas pour provoquer, elle a montré ses fesses tout simplement parce que ça fait partie de son...
La façon dont elle a chanté, mais Mémiche en rose, c'était peut-être bon.
Elle est née en Jamaïque, elle est née sous le bisturi des chirurgiens aussi, pas mal.
Il paraît qu'elle était superbe au Grand Rex.
Elle est somptueuse, oui, mais elle a été quand même un peu...
Sébastien Catroux dans Le Parisien dit Grace Jones avait littéralement ses superbes fesses à l'air. Elle se changeait entre chaque chanson pour des tenues qui la déshabillaient plus qu'elle ne l'habillait. Elle se jouait de la lumière pour faire de sa silhouette une œuvre d'art, une espèce de Valkyrie chanteuse, une époustouflante guerrière à micro. Et oui, Pierre, elle a justement chanté La vie en rose.
Europe 1, on va se gêner.
Dorémy Fassi. Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour
encore
Laurent,
un
bonjour
chanteur, le troisième du jour.
Heureusement que c'est pas son job à lui non plus.
Non, pas un jumeau, hein.
Aerosmith et ABBA, c'est la comparaison que vous faites aujourd'hui. Il y aurait un groupe qui aurait copié sur l'autre?
Non, je vous fais une double comparaison, monsieur Ruquier. Il s'agit de...
Oui, monsieur Liado.
Il s'agit de Shania Twain qui copié d'une part Aerosmith et qui a d'autre part copié...
Ah, je comprends mieux.
Allez-y vite parce que je peux plus tenir de savoir qui a copié l'autre de ces trois groupes qui me fascinent.
Oh bah, Shania Twain quand même,
ah
Pierre.
Ah Shania Twain, bien sûr. Je la quitte ce matin.
Et son frère Marc, vous l'avez connu.
Ah bien, oui, Marc Twain, bien sûr. Oui.
Aerosmith, ça vous dit quelque chose?
Aerosmith, oui.
ABBA quand même, ABBA.
ABBA, oui, ABBA, ça, il est connu.
Non.
Il est connu, ABBA, mais...
Alors, Shania Twain aurait copié sur ABBA et sur Aerosmith, si j'ai bien
voilà,
compris.
Voilà, c'est ça, deux chansons. Le premier tube de Shania Twain, vous rappelez, c'est...
Et copie sur deux personnes en plus. C'est comme si en classe, tu copies à gauche et à droite.
Oh, mais oui.
Alors, qu'est-ce qu'on va entendre dans l'ordre?
Alors, tout d'abord, on va écouter Uncle Salty, qui était enregistré par Aerosmith, et c'était de 75. Et le couplet a été copié par Shania Twain dans son gros tube de 1996 qui s'intitulait Man, I Feel Like a Woman. Et puis, d'autre part, la chanson de ABBA, qui date de 76, qui s'appelait Dancing Queen, tube mondial, eh bien, c'est le refrain qui, lui, a été piqué par Shania Twain pour devenir C'est la vie.
C'est parti, Aerosmith, Shania Twain, ABBA et encore Shania Twain.
Aerosmith. Uncle Salty told me stories of a lonely baby with a lonely kind of life to lead. Her mama was busted, daddy he was busted. They left her to be trusted till the orphan bleeds.
Shania Twain.
I'm going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
Deux.
ABBA.
And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet on
Twain.
On était content de réentendre ces bonnes chansons, Serge.
Ah, c'est pas mal.
Ça ressemble à peu près autant que Jacqueline François à Grace Jones, à peu près.
Alors là,
mais
ça c'est la mauvaise foi.
Je trouve pas que ça se ressemble, moi, je te jure. Omar, je comprends pas l'américain, d'accord, mais enfin, quand même. Hein.
Une chanson désastre supplémentaire aujourd'hui. Vous nous avez apporté un extrait de chanson de quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Sauzer, c'est ça?
Oui, Jean-Pierre Sauzer. Sauzer. Je suppose, ça se pense. Ah, il est connu, c'est une star.
C'est une grande vedette, Jean-Pierre
Sauzer. C'est qui?
Ça prouve quand même qu'il y a eu de grands interprètes avant Cindy Sander. Jean-Pierre Sauzer, c'est une sorte de vedette d'Internet. Il a son site MySpace et sa chanson. Il faut dire aussi qu'il est passé dans l'émission Confession Intime le 12 février 2003. Il a fait un carton.
Il y a 6 ans déjà.
Oui, mais le titre du reportage, c'était « Mes chansons n'intéressent personne ». Et vous allez voir que dans cette chanson-là, qui s'intitule « Je cherche un producteur », on comprend très vite pourquoi il a du mal à en trouver un.
Ah, il a écrit une chanson qui s'appelle « Je cherche un producteur ».
Je cherche un producteur. Ça a d'ailleurs été produit par le maire de son village.
Écoutons.
J'ai toujours aimé la variété, tous les chanteurs, ceux qui font danser. J'ai toujours voulu leur ressembler, je voudrais faire des tournées. Aller de gala en gala, et puis voyager. Faire le tour du monde, être idole des Français. Je cherche un producteur. Pour réussir ma vie, moi j'ai besoin de lui. Et je monterai sur scène, je chanterai des je t'aime sur des airs romantiques. Tout aimerait ma musique, et j'aurais des danseuses comme autant que François. Les filles seraient heureuses de chanter avec moi. En chanson guère triste, je prouverai que j'existe. Retrouver le bonheur, je cherche un producteur. Je cherche un producteur.
Quand même, quand je pense que Pierre, pendant la chanson, dit « Lui, il chante bien !»
On comprend ce qu'il dit,
là. On comprend mieux, pas Pierre.
Ben, on comprend qu'est-ce qu'il dit. Dès l'entrée de la chanson, il annonce la couleur. Je crois que c'est un garçon qui cherche un producteur.
Voilà.
Et il le dit. Et il le dit en musique.
Voilà.
De fort belle façon.
Et si ça se trouve, on va l'aider à trouver un producteur quand ça va se...
Ça m'étonnerait. Vous voulez que je vous dise, ça m'étonnerait. Allez, Serge, un autre rendez-vous demain à la même heure.
À demain. Salut à tous.
Maître Luc Abratkiewicz est avocat et il vient de saisir le procureur de la République de Montpellier parce qu'il estime que son client a exécuté 2 des 3 opérations nécessaires. Nécessaires à quoi? Je répète la question.
Ouais, je veux bien.
Je pense que c'est mieux.
Il s'agit d'un avocat, donc d'ailleurs vous pouvez oublier le nom, peu importe son nom. Un avocat vient de saisir le procureur de la République de Montpellier parce qu'il estime que son client a exécuté 2 des 3 opérations nécessaires à quoi?
Des opérations qu'on peut faire, nous?
Oui.
Et si on oublie la troisième, on va en taule aussi?
Non.
D'accord.
Ah non, mais son client n'est pas en taule.
Ah oui, c'est vrai.
Ça a un rapport avec le permis à points?
Non, non plus.
C'est une opération bancaire?
Non plus. Mais c'est lié à l'argent.
Ah.
Et c'est une affaire dont on a parlé c'était pas une affaire il y a 15 jours quand on en a parlé, mais ça devient une affaire.
Les Miss France.
Voilà, je crois que c'est
le casino.
Je crois que c'est le casino de Palamas. Okay. Il était là, il avait pas d'argent. Elle est arrivée, elle lui a dit, il m'a demandé de prête-moi un peu d'argent. Alors elle a dit oui, elle lui a prêté quelques pièces. À ce moment-là, il a mis une pièce dans la fente.
Ah, c'est pas ce qui est dit, hein.
Mais c'est pas ça. Elle avait de l'argent, elle jouait, et elle se tourne vers son pote. Et elle lui dit,
c'est son pote.
Oui, elle lui dit, sois mon petit trèfle à quatre feuilles.
Mon porte-bonheur.
Sois mon porte-bonheur. Oui, c'est pareil.
Mon trèfle à quatre feuilles. Qu'est-ce que t'as,
toi, traduit pour les gens,
c'est jamais. Comme t'as un kangourou, toi, pour porte-bonheur. C'est oui, un trèfle.
Ouais, attends, non, il a peur que ce soit pas moderne, peut-être trèfle à quatre feuilles. Qu'est-ce qu'on dit maintenant, floup. Non, mais sérieusement, un trèfle à quatre feuilles qui est censé porter bonheur depuis beaucoup de générations dans notre beau pays de France, hein, Michalak. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai un nom qui
alors,
passe, c'est français.
Allez, un porte-bonheur, il fait genre, j'explique aux gens, non? Oui. Non, nous sommes
c'est
tout public.
C'est-à-dire que votre explication, elle est tellement claire qu'on
va te faire bourrer, tiens, toi. Pardon. Non.
Hey, il m'a dit quoi?
Va te faire fourrer.
Joujou, expliquez-vous ce qui s'est passé.
Mais j'en sais rien en plus de ça, mais je comprends pas ce qu'il raconte les deux depuis tout à l'heure. Donc
bon, alors je vais expliquer, effectivement. Souvenez-vous qu'on avait parlé de cette sexagénaire gagnant 2 millions d'euros au casino de Palavas-les-Flots, Marie-Hélène. C'était le premier gros jackpot, mégapot, comme on l'appelle, des casinos, 2,175 millions d'euros. Or, on apprend ce week-end qu'un avocat a saisi le procureur de la République de Montpellier pour un monsieur qui était assis à côté d'elle, qui s'appelle Francis, et qui lui aurait servi de porte-bonheur, certes, mais qui aurait en plus lancé la machine, il aurait pressé physiquement le bouton quand elle a gagné. L'avocat de ce monsieur dit, pour gagner ce jour-là, il fallait à cette dame 3 opérations. Mon client en a exécuté 2 sur 3, dont celle de déclencher la chance.
Ils sont en...
La joueuse a certes fourni la mise, hein, c'est elle qui a mis l'argent.
C'est elle.
Son ami, depuis, n'est plus son ami, il ne se parle plus. Voilà. Et lui, il a effectivement pressé le bouton.
On s'en fout.
Ah oui, moi je suis assez d'accord.
On s'en fout, c'est celui qui met l'argent.
Tu touches un gros gâteau, tu t'en fais goûter un petit morceau à quelqu'un.
Si elle lui a rien donné, c'est honteux.
Elle a rien donné.
Moi, chaque fois que j'ai gagné un jackpot et qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, excuse-moi, j'ai donné direct à la personne.
Tu gagnes souvent des jackpots, toi?
Un ami, oui, ça m'est arrivé.
Attends, juste pour voir, Christine, imagine, tu gagnes 50 millions d'euros loto. Combien tu nous donnes à chacun?
À toi? Mais que dalle!
Vous ne connaissez rien à l'argent.
Alors?
Parce que vous dites, combien tu donnerais avant d'avoir l'argent? Tu dis, je donnerai 20%, je donnerai 50%, t'es content de toucher 1 million sur 2. Mais une fois que tu l'as touché, il est à toi. T'as l'impression qu'on te le prend dans la fouille.
Tu donnes plus tes sous.
C'est vrai quand même qu'elle est pas très sympathique, parce que le directeur du casino de Palavas dit, précise que le personnel de l'établissement n'a même pas reçu un pourboire.
Non, mais c'est une habitude de riche. Le pauvre a pas forcément l'habitude
de. Non, mais attends, 2 millions d'euros, tu touches 2 millions d'euros. T'as ton pote
et
à côté, il a appuyé, mais tu lui donnes
200 000 euros.
Mais ton pote, tu lui donnes 200, 300 000 euros direct.
Mais elle a l'habitude aussi, parce qu'elle était d'une cliente. C'est pour ça que d'ailleurs, que le casino la défend. C'est parce qu'elle, elle était d'une cliente habituelle du casino. Et vraiment, le réflexe, c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe
pas vraiment,
de
le
donner les pourboires au maître d'hôtel.
Il la défend pas,
mais,
mon frère.
Mais... c'est vrai que quand on gagne beaucoup, on dit au personnel, on donne 100 sacs.
Enfin, t'y penses même pas, je
pense. Combien tu donnes, toi? Tu gagnes 2 millions. Combien tu donnes au personnel, par exemple? Des gens qui n'ont pas l'habitude.
Moi, je donnerais l'équivalent de 100 000 francs, quoi.
Déjà, en parlant en euros. En euros, tu donnes en francs, toi.
Combien tu
gagnes 2 millions d'euros? Oh, je donnerais 1000 francs à peu près.
Non, vois, non, 15 000 euros,
j'en donnerais 3 louis d'or.
Moi, j'aurais pas 15 000 euros.
C'est énorme, 10 000 euros, quoi. Si tu gagnes 2 millions.
Non, tu donnes 1000 euros, tu donnes 1000 euros. Et le personnel est très content, mais bien sûr, 1000 euros.
Là, c'est déproportionné.
Pour la somme.
Mais 2 millions d'euros, c'est plus rien aujourd'hui. Enfin, si la personne veut s'acheter, je sais pas quoi.
2 millions d'euros, tu fais rien avec 2 millions d'euros, quoi. C'est en peine.
Non, mais si vous donnez déjà.
Si tu prends fromage et dessert, t'as pas assez. Mais
si tu prends franchement, si t'as pas 2 millions d'euros à 50 ans, t'es un naze.
Hein. Là, en plus, il est invalide, le monsieur de 50 ans.
C'est lui le bon dimanche alors.
Avec quoi?
Bah, il aurait pu avoir un geste, quoi.
Mais c'est honteux, vous
le
avez
pousser dans l'escalier.
Il aurait pu avoir un geste. En même temps, il paraît que le jour où elle a gagné, il y a eu une petite fête qui a été organisée, un pot et tout ça, il était là, et ce jour-là, il s'est pas plaint, mais il s'est pas plaint parce qu'il pensait peut-être qu'elle allait encore lui donner une partie.
Exactement.
C'est lui qui a payé pour la fête, il paraît, en plus. Il a dit, prends sur ma part. Il dit, ouais, y a pas de problème.
C'est bon, ça s'arrange.
Il a acheté les boissons, tout ça. Elle lui a rien filé, quoi. Hein.
Lundi dernier, Francis a pris un avocat pour réclamer ce qu'il estime être son dû. Il était installé sur la machine qui se trouvait à côté de la machine gagnante. Cette femme lui a demandé de jouer pour elle. Il a lancé la machine et c'est lui qui a pressé physiquement le bouton, le déclencheur. Bon, c'est pas lui qui a mis l'argent.
Non, mais attendez, c'est irrecevable d'un point de vue légal, je trouve.
Ah oui.
Elle lui a demandé de jouer pour elle, c'est clair, elle lui a pas demandé de jouer pour lui.
Oui.
Bon, il a accepté,
oui.
Donc il a fait le geste. Donc l'argent est à elle. Maintenant, qu'elle soit ignoble, c'est ignoble, je trouve, de sa part, de pas donner quelque chose. Mais c'est
mais
absolument
il veut
pas...
Elle veut pas... Le mec, il veut pas quelque chose, il veut la moitié.
Non,
il veut tout.
Non, il veut pas la moitié.
Maintenant, il veut la moitié.
Parce que si elle avait donné quelque chose, il aurait pas demandé la moitié.
Non, ça se fait dans les casinos. Non, ça c'est pire. Souvent, quand tu joues, quand t'as quelqu'un qui joue, celui qui mise et celui qui joue, normalement, c'est tu fais moitié moitié.
Il était sur la machine d'à côté.
Ah, mais il a appuyé. Peut-être si elle avait appuyé le bouton.
Il est sur la machine qui est à côté. Il est en train de jouer lui avec ses propres.
Imagine, c'est toi. Imagine, c'est toi. Il t'appuie sur le bouton et la personne te donne rien.
C'est super frustrant. Je demande rien parce que je trouve ça drôle.
Imagine, en train de titiller ton bouton, c'est Caroline qui a l'orgasme. Bon, tu vois, c'est frustrant. Quoi.
Allez, une nouvelle chanson de l'album d'Alain Souchon, Les Saisons. Un nouvel extrait de son album, Écoutez d'où ma peine vient. Un livre que j'ai dans les mains, un livre signé Juno Diaz, qui s'appelle La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao. C'est un roman qui a reçu d'ailleurs le prix Pulitzer, un roman publié chez Plon, collection Feu Croisé. Je me tourne vers Caroline Diamant, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak qui ont lu ce livre. Je commence par Caroline qui va le pitcher. Alors, qu'est-ce que c'est que La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao?
C'est pas facile à pitcher. Alors, quand ils disent que c'est une fresque, oui, en fait, ça commence par l'histoire d'un personnage dont on pense qu'il est le personnage principal, même si on va remonter son arbre généalogique, parler de sa sœur, de sa mère, de sa grand-mère. Oscar Wao, en tout cas. Alors, je sais pas si je vais vous laisser découvrir qu'il s'agit d'un peu d'humour par rapport à Oscar Wilde. En fait, il s'agit d'Oscar. Oscar, c'est un jeune homme qui est, alors qui n'a pas toutes les qualités qu'on attend d'un jeune premier. L'adaptation cinématographique sera certainement difficile.
Il est très gros.
Il est obèse. C'est un geek, comme on dit aujourd'hui. Voilà. C'est le mec qui passe, qui est un fan de science-fiction.
Parce que c'est un geek, moi,
vous savez pas ce que c'est un geek?
Le mec qui passe leur temps sur Internet, à télécharger des jeux.
Cyprien.
C'est un peu Mouloud dans Cyprien.
Et alors, c'est important de savoir parce qu'en fait, c'est écrit. Il me reste encore 50 pages à lire, mais c'est génial. Pour l'instant.
D'accord.
C'est génial, mais je pourrais pas le faire lire à ma mère.
C'est génial, ton pitch aussi.
Mais c'est parce que c'est difficile à pitcher. T'as un héros. Ça parle de la République dominicaine. Il est originaire de République dominicaine.
D'accord.
Il vit aux États-Unis, à New York. On va remonter dans l'histoire de la République dominicaine.
Pourquoi vous dites je le donnerai pas à ma mère?
Alors, je vais vous dire pourquoi je le donnerai pas à ma mère, parce que, je sais pas comment était l'original. Puisque c'est une traduction, bien entendu. Il y a beaucoup de phrases en espagnol qui ne sont pas traduites. Il y a beaucoup de phrases en verlan. Il y a un français qui est très jeune. Donc, je pense que ma mère comprendrait pas une phrase sur deux.
Pierre Bénichou.
Bah, moi, j'adorais ce livre. J'adorais ce livre parce que d'abord, c'est une histoire extraordinaire à travers deux siècles. Mais c'est surtout dans les années 70 à aujourd'hui qu'on voit la vie de cet Oscar Wao. Oscar Wao, comme vient de le dire très justement notre ami, c'est un obèse et c'est qui n'a jamais eu d'histoire avec des filles, qui est obsédé par la baise, quoi. Et qui fait des grandes déclarations, qui passe son temps à écrire de la science-fiction. C'est un écrivain qui écrit 30 pages par jour et qui est ridicule auprès de ses amis. Ses copains, au lieu de le bousculer, sentent que c'est un génie. Alors, il y a cette vie de ce génie dans ce New York, enfin, près de New York, en Amérique, comme ça, de cette colonie dominicaine, les gens qui viennent de Saint-Domingue, où ils sont tous beaux, plaisants aux femmes, sportifs, et lui, il est le contraire. Alors, il retourne à Saint-Domingue de temps en temps, et alors, il y a une description du Trujillo, qui était le dictateur là-bas. On voit quel point c'était l'horreur, ça a été tout ça. Bon, et on le voit dans ces deux milieux, comme ça, c'est quelque chose de... C'est un bouquin dont on sort pas, comme on dit, indemne, et c'est une histoire formidable, une histoire de mort, drôle. De folie et de surtout de science-fiction folle, quoi.
Ça fait déjà deux avis très positifs, même si Caroline n'a pas terminé le bouquin.
Ah non, c'est, oui. C'est parce
moi,
que
moi j'ai mieux compris avec Pierre quand même.
Michalak,
moi je l'ai terminé et je suis assez d'accord avec Caroline et Pierre, si ce n'est que je trouve que finalement l'histoire est quand même assez pas accessoire, mais très annexe dans le plaisir qu'on peut éprouver en lisant ce bouquin. C'est tout repose sur du style.
Voilà.
C'est que de l'écriture.
Mais c'est pour ça que j'ai eu du mal à pitcher.
Alors, c'est très compliqué. Voilà. Ouais, c'est très compliqué.
Je suis désolée.
Non, mais le pitch est simple, c'est la saga tragicomique, on va dire, ou en tout cas peut-être juste dramatique, d'une famille dominicaine qui a émigré aux États-Unis et qui revient effectivement à Saint-Domingue. On l'a dit, c'est bourré de références à la sous-culture américaine des années 80-90, c'est-à-dire les BD, les Marvel Comics, les Star Trek, les rappeurs type Notorious B.I.G., les Simpsons. Il y a plein de références.
Ah, c'est ça.
Donc c'est vraiment pas accessible comme bouquin, j'ai trouvé, dans la manière dont c'est écrit et par rapport aux références qui sont faites au fil des pages. Donc c'est très moderne, très contemporain, mais c'est pas facile à lire. Mais c'est vraiment très bien quand même.
Juno Diaz, La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao, un roman qui a obtenu le prix Pulitzer. C'est publié chez Plon, collection Feu Croisé.
Europe 1, on va se gêner.
Les Vermusseries de Paul Vermus.
Bonjour Paul, vous connaissiez ce livre ?
Non, absolument pas.
J'espère que vous avez noté, hein.
Oui. Parce que nous j'ai lu ce week-end le bouquin de Juppé, qui est formidable.
Vous êtes
à mon avis, c'est pas le même genre.
Il est de Saint-Domingue, là, aussi.
Vous êtes pas un peu en deuil, là, Paulo ?
Si, vous voulez remuer le couteau dans la plaie et dans la plaie, on se le rend.
Dans la plaie. Dans la
ouais,
plaie.
Il n'y a plus d'appel,
dans la raie.
Vous avez des nouvelles Vous avez des nouvelles de votre ami Carucci ?
Bah oui, écoutez, il a fait ce qu'on appelle un très beau combat. Bon.
Et KO.
Voilà, bon, vous savez, on perd tous un jour ou l'autre, hein.
Et oui. Donc, et il reste beaucoup de boissons, non? Alors, du coup.
Écoutez, moi-même, Laurent, j'ai été éjecté de la candidature.
Pour la chaîne parlementaire.
Public Sénat. Public Sénat.
Non.
C'est pas
alors,
vrai.
Tous les deux, donc, nous avons, oui, bon, c'est vrai, nous sommes assez tristes tous les deux, ouais.
Mais vous en foutez, vous avez vos femmes et vos gosses pour vous consoler.
Vous êtes bien informé, mon cher Benichou.
C'est drôle.
Un mot sur Bruce Willis.
Écoutez, il y a deux
s'est marié.
Oui. Il y a deux mariages
avec
très people.
Non.
Il y a deux mariages très people qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu. C'était ce week-end. Hein. Enfin, le premier en tous les cas, c'est Bruce Willis, 54 ans. Après 9 ans de célibat, donc, il vivait depuis un moment avec une comédienne, Emma Amy.
Pourquoi ça vous fait rire
9 ans de célibat?
Le mec, il a changé de meuf tous les deux jours.
Bon, la petite Emma Amy, elle a 24 ans de moins, elle est belle comme un cœur. Bon, ils s'étaient rencontrés sur le tournage Dangerous Seduction. Hein. Alors, je vous signale, puisqu'on est en plein mariage, il y a un autre mariage qui va avoir lieu.
Harrison Ford.
Voilà, c'est Harrison Ford qui va se marier avec la petite Calixta Flockhart. Là, ça fait 6 ans qu'ils étaient fiancés. Bon, il est peut-être temps d'aller convoler. Il y a un point commun, Laurent.
Et il lui a demandé sa main, c'est quand même, faut le dire, à l'occasion de la Saint-Valentin.
Oui, exact, vous êtes bien informé. Il y a une information que vous n'avez pas, Laurent.
Et il a 66 ans, elle en a 44.
Mais vous savez qu'il y a un point commun entre Bruce Willis et Harrison Ford.
Allez-y.
Eh ben, tous les deux ont décidé, ils sont malins parce qu'ils ont l'expérience derrière eux, ils ont décidé de se marier en séparation de biens, ce qui est quand même plus prudent après tous les devoirs qu'ils ont eus.
Surtout.
Il vaut mieux prévenir que guérir, Laurent.
C'est bien toujours une petite morale à la fin,
c'est important, hein.
À bon chat, bon rat, Paul.
C'est pas pour rien, tout ça.
C'est indispensable de moraliser ces informations qui souvent ne donnent pas le bon exemple.
Bah, vous avez peut-être trouvé un petit proverbe pour la vie quotidienne de Madoff en prison.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Bernard Madoff, 22e jour d'incarcération à la maison de correction de Manhattan. C'est pas très loin du centre.
Pourquoi vous dites ça? Il peut pas sortir de toute façon.
Si tu veux faire du shopping, tu vas
c'est près de tout, mais on peut pas sortir.
Il y a des restos.
Alors, quoi qu'il arrive, il y sera jusqu'au 16 juin. Bon, ouais. Ses avocats avaient fait une requête de remise en liberté provisoire. C'est resté lettre morte. Hein. Pourtant, il ne représente plus une menace pour la communauté. Bon, alors je vais vous dire ce qu'il fait en prison.
Ah. Ah,
c'est ça qui est intéressant. Il bénéficie d'une cellule de 18 mètres carrés, ce qui est assez grand, Laurent.
Ah oui.
Je peux vous dire qu'il est seul. Hein. Il vient de signer un contrat avec un éditeur pour un livre qui doit s'appeler Mea Culpa. Il aurait obtenu, mais je ne peux pas vous le confirmer, Laurent, il aurait obtenu une avance de 4 millions de dollars. Et Hollywood est en négociation pour faire un film avec dans le rôle de Madoff, devinez qui.
Anthony Hopkins.
Harrison Ford.
Non.
Clara Tambour.
Non. Non, il y a deux noms qui sont parlés.
Ça a réveillé Pierre Bénichou, Clara Tambour. Il s'était assoupi depuis 2 minutes 30, il a entendu Clara Tambour, hop là.
De Niro.
Alors, je peux vous dire que normalement, c'est Michael Douglas ou peut-être Dustin Hoffman qui pourrait incarner le rôle de Bernard Madoff.
Allez, retour en France, puisque vous avez assisté aux délibérations de l'Académie Grévin et donc vous allez nous donner les prochaines statues en cire.
Bah oui, c'est mon rôle, Laurent. Hein.
Alors, qui
dans la catégorie humour, parmi les pressentis, Florence Foresti, Nicolas Canteloup. Mais c'est encore un peu prématuré pour les transformer en personnages de cire. Au chapitre des comédiens. Charlotte Gainsbourg, Guillaume Canet.
Mais ça, c'est. Ils vont rentrer ou ils sont pressentis?
Non, ils sont nominés, mais je vais vous dire qu'il va rentrer. Bruno Solo. Ouais. Et Laurent Vincent Cassel. Et c'est le dernier qui tient la corde.
Donc c'est Vincent Cassel qui rentrera au Grévin.
Ouais. Alors, vous avez le nombre de chanteurs qui sont nominés. Vous avez Benabar, vous avez Christophe Willem, vous avez Cabrel, mais en revanche,
non, mais Christophe Willem. Non, mais attends, tu fais un album, cet album cartonne, et hop, on te fait rentrer au Musée Grévin, c'est un peu excessif. Non,
c'est vrai que Cabrel, c'est un peu tôt.
Ouais. Mais
faut attendre, faut être sûr pour
on
Cabrel.
Pas sûr qu'il dure, ouais.
Laurent, je vais vous dire qui va rentrer, c'est Julien Clerc.
Ça c'est logique.
Voilà.
Thomas Dutronc, pas dans la liste, hein.
Alors, le problème des sportifs, c'est ils sont tous au coude à coude, Laurent. Il y a Alain Bernard, il y a Sébastien Chabal, il y a Jo Wilfried Tsonga.
Chabal, c'est vrai que sa statue de cire, ça peut être rigolo.
Ah. Oui, alors mais il faut attendre quand même que la France ait de bons résultats et qu'il devienne une vraie star. Hein. Ça ne suffit pas de faire de la pub.
Qui se rase.
Pour des parfums. Alors bon, il y a les gens de la télé, Laurent. Alors vous avez Harry Roselmack, bien parti, mais c'est pas encore fait. Et vous avez au titre des gens de télé, il y a aussi Laurent Ruquier.
Oui, merci.
Il y a aussi Christophe de Chavannes. Bon, on ne s'est pas encore déterminé, Laurent.
Je laisse volontiers ma place à Christophe de Chavannes.
Oui, c'est ce que j'ai dit parce que comme vous m'aviez dit la dernière fois, je me suis
Mais c'est pour ressortir 6 mois plus tard.
Je me suis fait votre porte-voix. Oui.
N'insistez pas pour moi, j'ai pas besoin de ma statue. Bon.
Maintenant, ça ferait une occasion de te voir quand tu fermes ta gueule, tu vois. Attends, c'est excellent.
Ok, c'est bon, on va partir. Laurent est quoi? Il sait pas quoi dire, il dit bon. Est-ce que je la vis? Est-ce que je suis sport?
T'as plus fort que la vanne, t'as le licenciement direct. C'est plus violent.
Elle s'est cachée sous la table.
Non, mais ressort, assume ta connerie maintenant.
Comme quoi, elle finit comme elle a commencé.
Au chapitre des politiques, et ça, c'est Rachida Dati a été désignée à l'unanimité. Elle fera son entrée, je peux vous le dire, probablement au mois de septembre.
Avec un bébé dans les bras, un bébé en cire.
Non, on va le faire ça va se faire très classique, hein. Il n'y aura pas de petite Zora dans ses bras, quand même.
Et Christine Bravo, alors, elle n'est pas pressentie?
Bah, écoute, elle pourrait, si on la voit dans, si on
ça
la voit.
Ça coûte moins cher qu'avant, il y a moins de cire qu'avant à utiliser.
Oui, non, dans les gens de la télé, Christine Bravo.
Attends, il y en a beaucoup pour le nez, hein.
C'est le moment ou jamais.
Je peux la présenter à votre place, Laurent.
Voilà, mettez-la à ma place.
Comme nominée, ça me paraît une très bonne chose.
Ouais.
De quoi dois-je vous parler maintenant, mon cher Laurent? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Allô? Et vous m'entendez pas? Bon, alors, je coupe, alors.
Si tu veux.
Ah, ça y est.
Non, vous êtes incroyable.
Ça y est, on a réussi.
Vous êtes des coquins, des blagueurs, vraiment. Vous êtes
On est des coquins.
On est des coquins. On est des coquins.
Je suis caché derrière le micro.
Vous êtes content de vous.
Paul, on vous embrasse.
Bah, c'est réciproque.
C'était pas mal quand même aujourd'hui, hein.
Allez, au revoir.
À demain, 16h.
Évidemment, à demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr.